Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris, une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, au Jeudi des Colibris, on va parler de la vie en collectif. Alors, pour trouver des invités sur cette question qui puissent nous donner un témoignage sur des lieux qui fonctionnent, ça a été assez difficile, je vous l'avoue. La plupart des collectifs, comme vous l'avez peut-être remarqué, rencontrent beaucoup de difficultés du point de vue humain. Et souvent, ça capote, ou ça crise, ou ça craque. Bref, en tout cas, ça rencontre diverses problématiques. Et pour ceux qui auraient cette aspiration, ça peut même décourager d'avoir envie de passer à la vie en collectif. Alors, moi, je suis super contente de vous présenter ce soir Dan et Alain, parce qu'on les a trouvés, les perles qui peuvent nous parler d'expériences qui fonctionnent. Donc, Dan et Alain ont fondé l'éco-hameau de Sainte-Camelle, en Ariège, et ils vont pouvoir nous parler de cette expérience-là, qui est une expérience de collectif, où ils vivent à 15 personnes. Ça existe depuis 7 ans. Mais avant cela encore, ils avaient créé un autre collectif à Nantes, où là, ça s'appelait Les Petits Princes, et il y avait 6 personnes sur ce collectif, et pareil, ça a très bien fonctionné. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous passer le micro, Dan et Alain, et que vous nous racontiez quels ont été les ingrédients, on va dire, les secrets qui ont fait que ça a fonctionné pour vous, et aujourd'hui que vous pouvez peut-être transmettre à d'autres. La parole à nos invités, Dan et Alain de Sainte-Camelle. Allez, je te passe la parole, Dan.
Donc bonsoir à tous, merci de votre invitation. Déjà, moi j'aurais commencé par dire que ma passion depuis plus de 20 ans, c'est vraiment la vie collective, bien vivre en collectif. Alors le collectif, c'est déjà deux, donc le couple, et ensuite vivre davantage. Donc ça a pris beaucoup de temps pour moi de réfléchir sur la question. La meilleure des choses qu'on ait faites, c'était d'abord de vivre un collectif, donc à côté de Nantes, et de voir un petit peu comment ça se passait. Donc au début, on a fait beaucoup de bêtises, bien sûr, et ça nous a permis de beaucoup réfléchir à la manière de bien vivre, de garder une qualité de vie, puisque c'est aussi notre recherche, hein, de maintenir une qualité de vie. Voilà.
Question d'ordre chronologique. À la base, vous étiez déjà un couple quand vous avez eu envie de vivre en collectif, ou vous vous êtes rencontrés au sein de ce collectif, de ce premier collectif à Nantes. C'est quoi l'histoire?
Oui, on s'est rencontrés... au début du premier collectif. En fait, c'était l'aventure qu'avait lancée Dan, et on s'est connus à peu près à cette époque, et c'est là qu'on a commencé cette aventure tous les deux. Donc déjà, moi, mon parcours, effectivement, il était aussi sur un besoin profond de collectivité. Donc enfant, c'était des centres de vacances. Après, j'étais animateur, directeur de centres de vacances. Après, de l'enseignement. Donc il y avait toujours cette notion de faire ensemble, de vivre ensemble, de témoigner, de réfléchir. Et donc sur ce premier lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a animé des stages, fait de l'accueil de jeunes en difficulté pendant 10 ans, où on a beaucoup appris sur l'attitude intérieure dans la relation, sur l'authenticité, sur être en vérité.
Et donc sur la question de l'accueil des jeunes en difficulté, ça a été très formateur pour vous dans la question de la relation. Ça, c'est important de le noter. Donc vous avez fait ça pendant 10 ans. Vous avez accueilli des jeunes qui avaient le choix soit entre venir chez vous ou aller en prison, en gros, c'était ça. Alors vas-y, raconte-nous, Dan.
Donc sur cet accueil, effectivement, pour nous, ça a été un long cheminement de compréhension, de comment toucher une personne qui est dans une vraie difficulté, dans une vraie souffrance intérieure. Et ça a été pour nous vraiment un long apprentissage de savoir comment toucher ces personnes-là, quoi. et surtout dans le vivre ensemble. Donc ça a été notre première grosse difficulté dans le vivre ensemble, parce que ça ne s'improvise pas comme ça. Ce n'est pas simple de vivre avec des personnes qui sont en grande souffrance. Donc ça a été un long parcours, un long apprentissage.
Et vous y avez pris plaisir, Alain?
Oui, et c'est vrai, pour compléter ce que dit Dan, c'est vraiment l'expérimentation d'une relation de cœur à cœur, sans qu'il y ait de relation d'amour, ou par exemple qu'on va trouver dans le couple ou dans une relation duel, avec une personne qu'on ne connaît pas, et de tout de suite entrer en relation avec le cœur de l'autre, qui est a priori en souffrance, comme ces jeunes qu'on a accueillis, et ne pas laisser le mental interférer avec des conceptions de délinquance, de négativité.
De peur aussi, peut-être.
De peur, oui. Donc, je crois que là, ça a été très formateur pour ça, pour nous.
En gros, il a fallu que vous vous reliez à quelque chose qui faisait confiance, à la plus belle part de ces personnes, c'est ça?
Oui, oui, vraiment.
Et ça vous a appris à prendre cette posture, finalement, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de tout à chacun, c'est ça?
Oui, à la fois de prendre cette posture, mais aussi de faire ce travail intérieur qui nous permet d'accéder à l'autre, quoi, ce travail relationnel. On a commencé quelque part par le plus difficile. Après, quelque part, l'éco-village, donc vivre avec des gens avec moins en souffrance, on va dire, ça a été beaucoup plus facile pour nous. Et ça nous a permis d'avoir, d'élaborer quand même d'avoir des clés pour vivre en collectif.
Alors, j'imagine que comme tous les lieux collectifs, vous avez rencontré des crises, des moments plus ou moins difficiles, où il y a des personnes qui ne se sentent pas peut-être satisfaites pour telle ou telle raison. Comment vous faisiez face et comment vous continuez à faire face à ces moments délicats dans la vie des groupes?
Alors, il faut dire qu'au départ aussi, on est parti avec un idéal énorme qui était changer le monde. Hein, voilà. Et en fait, notre idée, c'était comment répondre à cette problématique de société. Parce que moi, dans mon métier, je suis psychologue, je me suis rendu compte que ça n'allait pas bien. Donc ça n'allait pas bien dans les couples, dans les familles, en entreprise. Dans notre société, il y a vraiment une grosse problématique et il va falloir répondre à cette question. Et pour nous, ça a été l'idée du collectif, ça a été de se dire s'impliquer, vraiment prendre un engagement extrêmement fort dans le collectif et pour trouver des solutions. Donc le collectif, ça a démarré effectivement avec beaucoup de bêtises, hein, comme on dit. On était partis un petit peu entre copains et puis on s'est rendu compte qu'on peut avoir des copains de très longue date et que c'est pas forcément le bon terreau pour vivre ensemble. Il y a eu ça et on s'est posé le problème de pourquoi ça ne fonctionnait pas, parce qu'on était quand même beaucoup de personnes à vouloir changer de monde, parce qu'on était militants à cette époque et on se disait comment faire, quoi. Et on pensait que rien que cette idée de vouloir changer le monde suffisait. Et là, ça nous a amené à peaufiner un petit peu notre travail, notre recherche, et se dire qu'il y avait des choses à expérimenter au préalable, c'est-à-dire quelles sont les bonnes questions. Et les premières questions qui nous sont venues, c'est de se dire quelles sont nos visions sur l'avenir, quel est notre futur. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait être d'accord sur différents points, notamment comme le respect de l'environnement, l'écologie. C'était pas forcé qu'on ait la même vision.
La vision du monde ou la vision du collectif?
La vision du collectif, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Ça nous a amené tout au fil du temps, c'est-à-dire sur le premier lieu et le deuxième lieu, à peaufiner cet aspect-là, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui vivaient ensemble, comme nous au départ, on n'avait pas la même vision du collectif. La vision du collectif répond à la question du pourquoi. Pourquoi je veux vivre en collectif? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on accompagne avec les groupes. En fait, on faisait tous la même erreur, c'est de travailler le comment. Voilà. Un projet répond à 99% à un pourquoi. Pourquoi je veux faire ce projet? Voilà. Et le comment, c'est 1%. Le comment, on trouve toujours des solutions. Et c'est vraiment que là, une des premières difficultés sur les collectifs. Ce qui nous a amené, nous, à vraiment réfléchir en profondeur sur notre vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Sur les collectifs, chaque collectif, on s'est rendu compte que chacun avait une identité propre. C'est-à-dire que, par exemple, on peut rencontrer des collectifs politiques. On peut rencontrer des collectifs d'artistes, des collectifs uniquement autour de l'écologie. Et ça, c'est vraiment, ça demande à être vraiment creusé. Et on s'est aperçu dans des éco-villages que ce point-là uniquement pouvait mettre déjà de grands problèmes, sans réellement qu'on puisse avoir conscience du pourquoi il y avait un problème. Parce que chacun va tirer un petit peu de son côté, moi je veux ça, l'autre je veux ça. Et je crois qu'au préalable, c'est vraiment répondre à la question du pourquoi.
Et c'est vrai qu'au début, on a fait l'erreur de, à partir de notre pourquoi, de définir une forme et de chercher la forme. Par exemple, on a longtemps cherché un paysan boulanger en se disant, ben voilà, l'éco-village, dans la vision qu'on a, il y a un paysan boulanger, il y a un maraîcher, voilà, un peu des idées comme ça qu'on avait dessinées et qui ont créé un blocage, je pense, pendant les premières années dans cette recherche, jusqu'au moment où on a compris qu'effectivement, il fallait que la demande à l'univers, par exemple, ou notre demande profonde, elle soit sur des valeurs, sur une éthique, sur un aller vers, mais pas sur un comment on y va. Donc, et ça, je crois que ça a vraiment débloqué. En disant, ben, la personne, si elle est, je ne sais pas quoi, informaticienne, ben, elle sera informaticienne. Mais si elle répond aux mêmes valeurs, à la même vision, ça veut dire que ça pourra se traduire de manière qui nous correspond et au contraire qui va permettre une diversité. Donc ça a été pour nous un virage, un moment dans nos recherches.
Aussi, ça confirme aussi cette erreur qu'on fait tous au départ. On est tellement pressé d'entrer dans l'action, de vivre quelque chose de différent, qu'on oublie. On oublie de vraiment aller creuser. C'est vraiment important, ce préalable, de creuser quel est vraiment notre idéal de vie. Parce qu'en réalité, c'est de notre idéal dont on parle là. Hein. Ouais. Dans tous les groupes qu'on rencontre aujourd'hui, eh bien, c'est le même problème. C'est-à-dire que les gens qui viennent demander de l'aide nous disent, ben voilà, on va faire un éco-village, on va monter ceci, on va monter cela, on va faire ceci, cela. Et puis, moi, chaque fois, je les ramène à, mais pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Et ça, c'est vraiment une des clés. Pourquoi vous voulez vous mettre en collectif? Et je dirais que ça répond même à la problématique du couple. Hein, un couple, c'est pareil, parce qu'un couple, c'est déjà deux. C'est un collectif, un couple. Hein. Donc, on doit répondre à cette question quand on se met en couple. Pourquoi? Vers quel, qu'est-ce qu'on regarde ensemble? Dans quelle direction on regarde? Et si on n'a pas une réponse à ça, il y a des risques. On prend des risques. Voilà.
Et ce pourquoi, souvent, il va entraîner d'autres questions. Pour le couple, ça va être est-ce que c'est pour me rassurer? Est-ce que c'est pour combler quelque chose? Des questions qui vont forcément ramener à soi, à son histoire, et puis peut-être à des choses qui sont pas claires ou douloureuses. Et pour le collectif, c'est pareil. Il y a effectivement beaucoup de demandes de gens pour nous rejoindre ou qui ont des questionnements sur le collectif et où on sent derrière une peur de la fin du monde, une peur que tout s'écroule, que le système s'écroule, et du coup, il faut se replier sur... Toutes les raisons qui sont mues par des peurs, elles ne sont pas justes, ce n'est pas des raisons du cœur, hein, c'est des raisons de notre part humaine ou de notre ego. Donc, il y a quand même tout ce tri à faire et ce questionnement en profondeur qui permet de trouver un pourquoi qui est un pourquoi élevé, forcément. Qui est le pourquoi du cœur, c'est vivre ensemble, ça fait partie de nous. Parce qu'on est dans notre race animale, elle est grégaire et elle est faite pour se regrouper, pour travailler ensemble. Et donc c'est cette envie-là qu'il faut retrouver et qui est en général étouffée par la vie dans notre société, qui est plutôt basée sur la division. Hein, c'est une société basée sur l'individualisme et sur la dépendance à un système lié à l'argent, etc. Enfin, tout ce système-là n'est pas fait pour des regroupements et pour de l'autonomie. Donc, il y a à retrouver cet emprisonnement peut-être qu'on peut avoir lié à cette société, et puis la pureté de notre besoin intérieur et essayer de le laisser s'exprimer. Il y a un peu ces deux parts-là.
En gros, si je peux résumer, c'est aller guérir les parts blessées de nous-mêmes, c'est-à-dire faire notre travail personnel, on va dire, et puis retrouver les vrais idéaux qui nous portent et qui nous font aller de l'avant, prendre appui là-dessus. Dan.
Oui, alors je dirais que oui, c'est ça. Première clé, hein, c'est ça. Travailler le pourquoi. Pourquoi on veut se mettre en collectif, pourquoi on veut se mettre en couple, mais je dirais même pourquoi on veut travailler dans cette entreprise, pourquoi on veut faire ce métier. Je crois que c'est vraiment...
C'est la question du sens.
La question du sens, tout à fait.
C'était la chanteuse Jane avec Comme, venez, venez à la vie collective dans le chant des colibris, grâce à Dan et Alain qui nous donnent des clés indispensables pour qu'un collectif fonctionne.
Deuxième préalable, on va dire, pour nous, dans notre expérience, on a réalisé que c'était mettre l'intérêt collectif au centre. Alors ça, c'est pas évident. Notre société nous a formatés à faire directement. D'ailleurs, je vais passer la parole à Alain parce que là...
C'est un peu ce que j'ai dit juste avant, mais effectivement, ça demande un retournement intérieur et un changement dans nos manières de penser. Où le problème, c'est qu'on va vouloir aller dans un collectif en tant qu'individu et en cherchant un collectif qui va nous apporter quelque chose et rentrer dans un échange comme ça, alors que le but, c'est de se donner au collectif qui, lui, va nous renvoyer quelque chose, mais c'est plus un effet de reflet ou de bénéfice secondaire. Mais si on cherche à ce que ça soit le premier bénéfice, eh bien on va subir le collectif comme une contrainte. Et on a aussi eu des expériences de personnes qui sont passées où travailler ensemble, c'était plus une contrainte qu'un plaisir. Et du coup, c'était...
Dire qu'en fait, on n'a pas été formaté au collectif depuis à peu près, je dirais... Début du siècle, un peu après le début du siècle, la société nous a amené à la division. Hein, la division qui permet de nous mettre un peu en position de vulnérabilité, mais aussi en position de consommateur. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir consommer beaucoup de choses pour pouvoir être satisfait de notre vie. Je disais tout à l'heure qu'on cherchait, nous, une solution à la problématique de société, et on pense effectivement que vivre en collectif est une solution, parce que ça permet d'être un petit peu en marge de cette obligation de consommer, parce que vivre en collectif nous permet d'avoir moins besoin de consommer. Voilà. Et par contre, mettre l'intérêt collectif au centre, ça a un avantage, c'est que si un collectif va bien, tous les individus vont bien. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Un individu dans un collectif peut bien aller, alors que le collectif peut être vraiment en péril. Voilà, ça c'est vraiment important de prendre soin, parce que ça a été renversé, je dirais à peu près en une centaine d'années, on est arrivé à avoir une société de consommation qui nous assujettit, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'économie, en fait, n'est plus au service du peuple, mais c'est l'inverse, c'est le peuple qui est devenu au service de l'économie. Et il y a eu un retournement, quelque part. Voilà. Donc, le collectif permet cela. Encore faut-il prendre conscience qu'il faut soigner ce collectif et qu'à chaque instant, il faut le mettre au cœur. Voilà. On est tous là pour faire en sorte que ce collectif aille bien.
Est-ce que tu peux nous donner aussi des exemples concrets ? Parce que c'est très général de dire ça. Concrètement, dans votre vie quotidienne, comment ça se manifeste ? Quand tu dis à chaque instant, il faut penser au collectif, ça peut faire très peur. On se dit, mais attends, comment je vis ? Enfin, est-ce qu'à chaque seconde, il faut que je pense au collectif ?
C'est pas chaque seconde, je pense au collectif. C'est que, en fait, c'est comme dans un couple. Quand on crée un couple, on crée une troisième entité. Quand on crée un collectif, on crée une autre entité. Et il faut la nourrir. Alors, comment on nourrit un collectif ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est de ne pas être celui qui met, d'être celui qui met en péril le collectif. Voilà. Et là, je vais y arriver, puisque on ne peut pas vivre un collectif si, au préalable, on ne fait pas un travail sur soi-même en profondeur, ce qu'on appelle le développement personnel, aujourd'hui l'écologie intérieure. Voilà. Pour nous, c'est le seul moyen d'arriver à bien vivre un collectif. On connaît beaucoup d'outils.
Oui, moi, ce qui me fait tiquer, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui pratiquent le développement personnel de façon très individualiste. Donc, comment on allie aussi cette question du développement personnel, donc développement de soi, au sein d'un collectif, et tout en prenant soin aussi, comme tu disais, du collectif, en nourrissant ce collectif.
C'est pour ça que le mot développement personnel est un peu, aujourd'hui, un peu dépassé. Écologie intérieure est plus adaptée. En fait, c'est devenir un bon compagnon pour soi-même, mais un bon compagnon pour le collectif. Et j'y viens, c'est de faire attention, de soigner son collectif et pas devenir le boulet pour le collectif. C'est-à-dire protéger, faire attention que toutes nos arriérés, on va dire nos traumatismes, nos vieilles casseroles, c'est pas ça qu'on a à offrir au collectif. Ça veut dire que c'est donner le meilleur de nous-mêmes pour le collectif. Hein, donc un travail qui va nous amener à, par exemple, si je suis quelqu'un qui cède facilement la colère, par exemple, eh bien, c'est de faire ce travail à l'intérieur pour devenir quelqu'un de plus pacifié. Voilà. Parce qu'offrir sa colère aux autres, ça ne peut pas rendre un collectif heureux. Il y a un tas d'exemples, en fait, qui mettent en péril un collectif. Par exemple, on a la personne qui a besoin de reconnaissance, a besoin de pouvoir. Hein, celui qui a toujours raison. Ça met en péril un collectif. La susceptibilité. Donc ça, ce sont tous des aspects qu'on a à soigner en soi. Ça fait rigoler, là, la dame, là. Voilà.
Alors, il y a une question dans le public. Est-ce que le boulot doit se faire avant de vivre en collectif ou est-ce que ça peut se faire pendant ?
Alors, il vaut mieux faire quelque chose avant. Disons avoir fait un bon débroussaillage, on va dire, hein, parce que les réglages fins, ça se fait tout au long de la vie, on résout pas tout, hein, dans un travail comme celui-là.
Mais ça peut être comme dans toute relation de couple, c'est-à-dire que si on arrive en montrant que ses bons côtés, il y a un moment où on va déchanter. Et nous, c'est un peu ça, c'est essayer de se rencontrer et le plus simplement possible, se dire, voilà, moi j'amène telle casserole, je suis comme ça, j'en suis conscient, je travaille dessus, voilà, ça avance, mais j'amène aussi tels atouts. Et après, ben, les autres vont pouvoir ensemble dire, bon, ben, ça, oui, on peut prendre, ou alors on ne prend pas, c'est une problématique trop lourde pour nous, par exemple, où on ne se reconnaît pas, voilà. Hein. Je crois que c'est ça qui va, je pense, déjà permettre de mettre du possible sur un démarrage de collectif.
Pour résumer, pour soigner l'intérêt collectif, il ne faut pas être le boulet de service. Donc ne pas apporter ces problématiques aux autres. Donc ça veut dire les traiter avant ou pendant. Tout à l'heure, peut-être, on parlera des techniques un peu plus spécifiques. Donc, le troisième point dont on voulait parler aussi...
Juste, excuse-moi, c'était juste pour conclure, faire une reformulation. En gros, au-delà de ne pas être le boulet de service, c'est vraiment s'occuper de ces problématiques et ne pas rêver que le collectif va apporter une réponse à nos problématiques personnelles, en fait. Le collectif, non seulement ne va pas apporter de réponse à nos problématiques personnelles, mais voire même va les rendre encore plus explosives. Donc, nos problématiques personnelles, c'est à nous de les soigner, de les traiter, etc. Mieux vaut, d'ailleurs, en avoir traité une bonne partie avant de commencer une aventure collective, parce que c'est sûr que ça va nous sauter au visage très vite avec les relations du collectif. Voilà, donc on a vu les deux premières clés, donc une vision commune, répondre au pourquoi, mettre l'intérêt collectif au centre de nos vies, du projet du coup. Et puis la troisième clé alors...
Qui va rejoindre un peu la seconde clé, c'est de faire le choix du bonheur. Dans le deuxième, on disait soigner son collectif, ça veut dire amener le meilleur de soi-même dans le collectif, est le moins bon de soi-même, le garder pour soi, de travailler. Donc la troisième clé, on va dire, c'est l'engagement au bonheur. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont envie d'être heureux ?
Oui, les mains se lèvent allègrement.
Se lèvent, voilà.
Il y en a qui hésitent quand même. Hein.
Il y en a qui hésitent, alors dehors. En fait...
Juste peut-être, on peut hésiter sur la question de... Oui, ok, on a envie d'être heureux, mais est-ce que ça se décide ? Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, se demandent, est-ce que ça se décide vraiment d'être heureux ?
Alors oui, ça se décide, j'irai même plus loin, ça se décrète et c'est vraiment un choix que l'on fait. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris, ni au cours de notre scolarité, ni dans nos familles, ni dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé, enfin nulle part. Est-ce que quelqu'un parmi vous a entendu dire « faut faire le choix du bonheur » ?
Il y a quelques têtes qui se hochent. 2, 3, 4.
Ouais. Ouais. Voilà. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est plus confortable. Voilà, c'est exactement ça. Faire le choix du bonheur, ça ne veut pas dire non plus qu'on affiche un sourire permanent, qu'on joue le rôle de celui qui est heureux. Ce n'est pas ça du tout. Ça revient à ce qu'on disait juste avant. Ça veut dire que pour être heureux, c'est d'abord un choix, parce que c'est un but. On y va, mais qui demande aussi beaucoup de soins. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de travailler sur soi. C'est-à-dire, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux ? Donc là, c'est vraiment la conscience. Aller voir au fond de soi, qu'est-ce qui fait qu'on est malheureux ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des colères ? Qu'est-ce qui fait qu'on est dépressif ? Qu'est-ce qui fait que la météo puisse nous rendre grincheux toute la journée ? C'est pas normal. Hein. Donc ça, c'est vraiment encore une fois une invitation à réfléchir en conscience et de travailler. C'est-à-dire, il peut y avoir un tas de raisons, il peut y avoir des émotions refoulées. Donc travailler sur ces émotions refoulées, on ne nous a pas appris dans notre société à exprimer nos émotions. Au contraire, c'est le refoulement. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire parce que le bonheur, c'est vraiment un long chemin où il faut vraiment travailler, voilà. Donc ça, c'est, pour nous, ça nous paraît très important. Alors, sur notre lieu, c'est un engagement. Et cet engagement, c'est vraiment cette expérience qu'on fait tous ensemble de chacun travaille sur soi pour amener le bonheur. Parce que le bonheur, c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a envie de vivre avec quelqu'un de malheureux, de grincheux, de dépressif ? Il n'y a pas de main qui se lève là, hein. Donc voilà, donc être heureux, ça veut dire que c'est un cadeau donc qu'on se fait à soi-même et c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Et quelqu'un qui est heureux autour de nous va rendre heureux. C'est contaminant le bonheur, hein. Vous êtes d'accord ?
Vous êtes assez forts pour ça tous les deux, j'ai remarqué.
Voilà, donc ça aussi c'est une clé. Pour nous c'est vraiment une clé donc, qui va nous amener, hein, on le disait sur les trois préalables, là, donc vision, une vision collective, le choix du bonheur, et le choix de mettre l'intérêt collectif au centre de notre vie. Voilà. Donc ça va nous amener vraiment à cet outil de réussite qui est l'écologie intérieure, donc le travail sur soi. On ne peut pas, à notre sens, y échapper. On a travaillé, nous on a appris beaucoup d'outils pour pouvoir vivre en collectif. En fait, on ne s'en sert pas. CNV, sociocratie, holocratie, toutes ces choses-là, on ne s'en sert pas parce qu'on a, en 22 ans de vie collective, on a réalisé que seul ce travail en amont sur soi, être un cadeau pour soi et pour l'autre, le couple ou le collectif, c'était la seule solution.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. Go, 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 go tonight. You sigh and sigh and sigh. You long for more, more of the life you had before, before, before. Let the seasons arrive and dive. Let the winter snow and blow, blow. And the wind will blow, just flow, flow. Eventually you will.
Écoutez Go to the River de Yaël Naïm dans le chant des Colibris. Nous nous penchons sur les secrets d'une vie collective réussie. Et pour cela, Dan et Alain de l'éco-hameau Sainte-Camelle en Ariège nous partagent leur expérience et leur expertise en matière de vie à deux et à plus.
En fait, c'est un problème d'ego. C'est que tous les outils qu'on connaît de résolution de conflits ou de communication, ce sont des outils pour que des égos puissent cohabiter, donc pour constituer des égos villages. Et voilà. Et du coup, si on rentre pas dans cette relation d'égo à égo, mais plutôt de cœur à cœur, eh bien, on n'a plus besoin d'outils pour que les égos qui sont par définition distordus, traumatisés, souffrants, en manque, etc., il n'y a plus besoin d'essayer de les accorder. Et dans le couple, c'est pareil. Si les couples qui fonctionneraient avec des outils comme on a l'habitude dans les éco-villages, ça serait un peu étrange parce qu'en général, un couple, il agit par affinité puis par lien de cœur. hein, ou dans une famille avec les enfants, c'est pareil. Donc, je crois que c'est pareil pour un éco-village. J'allais dire éco-village. C'est pareil pour un éco-village. C'est-à-dire que si on revient à un fonctionnement qui est plus du cœur et moins des souffrances qui essaient de se combiner, eh bien on arrive déjà à avoir une base un peu plus solide pour démarrer déjà.
Merci, c'est passionnant, hein, vraiment, parce qu'effectivement, on peut renouer avec une authenticité, avec une simplicité, du coup. Ça paraît beaucoup plus simple que de devoir se former à des tas d'outils de résolution de conflits, de CNV, de communication. Ok, les choses sont beaucoup plus simples, dites comme ça, finalement. L'important, c'est de se connecter au cœur et de voir qu'est-ce qui entrave cette connexion, qu'est-ce qui se place entre nous et notre élan du cœur, et de travailler là-dessus. Et à mesure qu'on lève ces obstacles, eh bien, on va pouvoir être dans des relations de cœur à cœur qui, là, se passent de règles, en fait.
Ce qui résout le problème du PFH.
Le fameux PFH, le fameux putain de facteur humain, ou précieux facteur humain, selon dans quel sens on le prend.
Effectivement, c'est un moyen. Je crois que c'est vraiment d'exprimer qui l'on est, voilà. Et de l'accepter, quoi. Le tout, comme je disais tout à l'heure, n'est pas d'afficher un bonheur factice avec une belle apparence, mais d'être vrai, quoi. C'est là tout notre travail. Je crois qu'on est beaucoup ici à vouloir transformer le monde. Mais je crois que, comme l'a dit Gandhi, on ne transformera le monde qu'en se transformant soi-même. Et a priori, dans les éco-villages, c'est ce problème qu'il va falloir résoudre pour vivre en collectif, en couple aussi, travailler sur soi. Se transformer soi, voilà.
Alors j'ai une question, parce que donc ça, chacun peut le faire pour soi, mais quand au sein du collectif, on a une personne un peu récalcitrante à aller voir ses blessures, à aller faire le clair, à aller mettre de la conscience sur certains aspects d'elle-même, comment font les autres qui s'en rendent compte? Comment on fait pour lui dire, à l'inviter à...
Donc là, on arrive dans le développement des 5 points principaux, donc dans le cadre de l'écologie intérieure, pour bien vivre en collectif. Nous, on a développé 5 points principaux. Donc là, c'était le second point, mais je vais répondre à ta question. C'est la question de la transparence. Pour nous, le nouveau monde sera fait de transparence. Encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris ni à l'école, ni dans nos familles. On nous a plutôt amené à refouler, à se taire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect-là qu'il va falloir modifier en nous. Donc nous, dans cet éco-village où on expérimente, là, c'est la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire, la transparence? Ça veut dire « je m'engage à dire ce qui ne va pas ». Donc ça, c'est un réel engagement chez nous qui n'est pas toujours facile, effectivement. C'est le seul protocole qu'on ait sur le lieu, cet aspect de la transparence. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va déverser sa colère sur les gens. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, on ne va pas sauter sur l'autre et puis lui déverser notre colère. Il y a un protocole qu'on appelle chez nous le cœur à cœur, ce qui veut dire que quand on a un problème avec quelqu'un, on va d'abord résoudre soi-même ce problème. Donc le protocole, c'est de rentrer chez soi, d'accueillir ce qui vient, c'est-à-dire accueillir par des larmes, enfin voilà, laisser, ne pas refouler ses émotions, hein, d'accueillir vraiment profondément, de laisser s'exprimer et ensuite de pacifier, voilà, dans la relecture de la problématique. Ça veut dire de lui donner un sens. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi l'autre m'a dit ça et pourquoi ça m'a touché? Donc là, c'est tout un travail de relecture. C'est, quand on a l'habitude, c'est assez rapide et assez facile. Alors parfois, on trouve, hein, quel est le sens. Parfois, on ne trouve pas. Mais en tout cas, toute cette relecture, ça nous permet de donner un aspect positif à ce qui se passe. C'est-à-dire que ça a un sens. Tout ça a un sens. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus, c'est pas une fatalité, c'est venu là parce que ça devait, voilà. Donc on part déjà avec ce postulat. Hein, l'autre n'est pas le monstre qui vient m'apporter un problème, l'autre vient justement me donner une opportunité pour résoudre ce problème. Donc là, c'est tout un travail intérieur qui, à un moment, va nous amener, quand on est pacifié, donc on se donne à peu près 24-48 heures dans notre protocole pour aller voir l'autre, et lui dire, voilà, il s'est passé quelque chose avec toi, je voudrais en parler avec toi. Donc on nomme le problème, et ensuite on laisse à l'autre, aussi le temps nécessaire pour revisiter tout ça. Donc accueillir l'émotion que je lui renvoie, relire aussi, dépasser ses émotions aussi, parce que les émotions, quand elles sont là, il y a un moment, il faut faire quelque chose, il faut accueillir, mais il faut aussi les transformer et refaire le même travail sur le sens. Donc, à partir de là, la personne, on se donne un rendez-vous, donc ça donne à peu près 4 jours environ, hein. Parfois ça va beaucoup plus vite, avec l'habitude ça va beaucoup plus vite, mais on prend toujours ce temps. Et on rencontre l'autre. Et souvent, ce qui se passe, et je dirais même plus que ça, c'est que à 100%, quand on se rencontre, on est tellement pacifié que le problème, il n'est plus là. Et ce qui va se passer avec l'autre, c'est qu'on va lui réexposer par quel cheminement on est passé et on va lui dire merci. Merci de m'avoir apporté ce problème qui m'a permis de comprendre quelque chose sur moi-même. Donc là, ça, c'est vraiment dans les 5 points. La transparence, c'est le plus important dans le couple, dans le collectif. Si on ne travaille pas sur cette transparence, ça ne pourra jamais fonctionner. On l'a vu sur d'autres collectifs aussi. En fait, un non-dit, même le plus petit des non-dits, est une bombe qu'on dépose quelque part, puis un jour, qui éclate. Et on ne sait plus pourquoi. On ne sait plus pourquoi. On ne se souvient plus. En plus, on accumule. Vous savez, on a aussi quelque chose en nous qui s'appelle un stressogramme et où les émotions s'accumulent. Et il y a un moment, il y a une goutte d'eau qui fait déborder. Vous savez, quand on est en colère, et à un moment, la colère, ce n'est pas réellement la raison. C'est qu'il y a toute une accumulation. Et je crois, enfin, nous, on pense que le nouveau monde va se construire ainsi, dans la transparence, c'est-à-dire s'habituer à quelque chose auquel on n'a pas été habitué, mais exprimer ce qui ne va pas. Donc ça, c'est... Chez nous, un engagement, la transparence.
Ah, il y a Alain qui veut dire quelque chose.
Non, c'était toujours sur le cœur à cœur. Ce mot de cœur à cœur dit bien ce que ça veut dire et ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. C'est passer de l'ego qui est blessé par une parole de quelqu'un et du coup qui va réagir. Et donc un jeu relationnel entre les égos pour retrouver à une relation de cœur à cœur après qu'il y ait eu une pacification de soi à soi.
Voilà, avec le postulat qu'on est tous humains et qu'on a tous nos vieilles casseroles à traîner. Hein, voilà. Je voudrais revenir sur le premier point qui est se connaître. Hein, le premier point qu'on a un peu abordé. Se connaître. Se connaître, c'est vraiment tout le propos du développement de l'écologie intérieure. Se connaître, c'est connaître ses désirs, connaître ses besoins. Ça, c'est vraiment très important d'approfondir tous ces points-là. Et d'approfondir aussi quelles sont nos parts d'ombre. Et c'est celle-ci qu'il va falloir visiter. Voilà. Où est-ce que moi, je peux apporter un problème sur un collectif? Ça, c'est une question super importante à se poser si on veut vivre en collectif. D'ailleurs, nous, quand une personne veut intégrer le collectif, on lui dit, quel est le problème en toi qui n'est pas suffisamment résolu pour apporter un problème dans notre collectif? Donc ça, c'est aussi important. Donc, on a parlé de la transparence. Donc ça, l'inévitable. Donc le troisième point qui est la responsabilité. Voilà. Ça aussi, dans notre société, on a tellement de règles que ça finit par nous déresponsabiliser. Même plus que ça, nous infantiliser. Hein. La responsabilité, c'est le moyen de, quelque part, de récupérer notre souveraineté. Prendre la responsabilité de nous-mêmes, de l'impact qu'on a sur les autres. Parce que on parle souvent de pollution environnementale, mais on parle peu de la pollution que soi-même on peut apporter aux autres. Toutes les paroles négatives qu'on peut déverser à longueur de journée, que ce soit à propos du temps ou de les grognements qu'on peut avoir sur tout ce qui se fait dans une journée, c'est autant de pollution. Et moi, j'irais même à dire que c'est une pollution encore plus importante que la pollution environnementale et que celle-ci, elle demanderait aussi être soignée. Donc la responsabilité de soi, de l'impact sur les autres, la responsabilité du collectif, on l'a vu, et aussi la responsabilité de notre planète et du petit bout de terrain duquel on est responsable. Donc vraiment, pour nous, le chemin de cette liberté, parce qu'en fait, transformer le monde, c'est un chemin de liberté en fait que l'on cherche. Vivre un autre paradigme, c'est dans la responsabilité qu'on trouvera cette liberté. Le quatrième point, c'est la confiance. Donc la confiance aussi... tu voulais parler de la confiance?
Non. Non. Je te fais confiance.
Je me fais confiance. Voilà. Donc la confiance aussi, c'est un sujet. On s'est rendu compte en éco-village que les gens, finalement, sont très méfiants les uns avec les autres. Alors, ça ne saute pas aux yeux dans la vie habituelle parce qu'en fait, on côtoie les autres pas assez longtemps pour réaliser ça. Nous, on l'a vu en éco-village que le problème de la confiance se pose et que dans notre société, alors pour avoir vécu et beaucoup voyagé dans d'autres pays, des pays pauvres, on se rend compte que la confiance est davantage là. Alors que nous, dans nos pays riches, civilisés, on a des assurances pour tout, eh bien, on est peureux. Et la confiance de la vie dans un pays comme le nôtre est vraiment très, très limitée. On a peur de tout. On a tellement d'assurances sur tout qu'on devient peureux sur tout. Les peurs qui peuvent arriver dans un éco-village, c'est la peur du manque, la peur de l'argent, la peur de l'autre, la peur du nouveau. Des peurs, il y en a des... Voilà, la peur pour sa liberté, hein, par exemple. Qu'est-ce que je vais perdre dans un collectif, hein? C'est souvent la question qu'on nous pose. Et on sent cette crainte, alors que ce travail de développement intérieur, au contraire, nous amène à la liberté. On est des êtres sociaux et on a besoin des autres. Et vivre en collectif, alors ça, nous, on fait la promotion du collectif, parce que vivre en collectif, c'est merveilleux quand ça fonctionne bien. C'était Victor qu'il fallait rassurer. Voilà, vivre en collectif, c'est merveilleux. Donc, la confiance est vraiment très, très importante à retrouver. Donc, ça, c'est aussi un travail intérieur. Confiance de la vie.
Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Sans le lilas, on laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, n'ont pas l'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent sur les trottoirs, on écrit des poésies. Les enfants claquent les doigts car la musique c'est la loi. La 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 la. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, non pas l'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon. On marche sous la planète comme dans sa maison. Ici on ne s'inquiète de rien. Notre passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités, mais quand même, ce quartier faudra l'inventer.
Sympa, n'est-ce pas, son quartier à Rive Cohen? Eh bien, nous aussi, on peut créer des quartiers aussi joyeux et chaleureux, puisque Dan et Alain, de l'éco-hameau de Sainte-Camel en Ariège, nous livrent aujourd'hui tous leurs secrets pour des vies collectives harmonieuses basées sur la confiance.
Oui, sur la confiance, ça me fait penser à ce glissement de l'attitude d'être vers une attitude d'avoir. L'être, quand on est, on rayonne. Alors, quand on est dans l'avoir, c'est un rayonnement vers soi, hein, de l'extérieur vers soi, avoir. Et être, c'est un rayonnement de soi vers l'extérieur. Et je crois que cette société basée sur l'avoir, de plus en plus, et qui néglige l'être, effectivement, elle peut pas aller dans le sens de la confiance, d'un lâcher, d'une ouverture. Elle va dans le sens de nourrir des peurs qu'elle alimente, en général. Donc des peurs, peur du manque, etc., ce que tu as défini.
Les amis Dan et Alain de Sainte-Camel, c'est passionnant tout ça. J'aimerais rester avec vous une heure de plus, mais il nous reste que 3 minutes pour parler du dernier point d'Anne, et c'est pas le moindre, on va parler d'amour.
Voilà. Le cinquième point très important, hein, on peut pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre, c'est l'amour, effectivement. Pour nous, notre philosophie, c'est l'amour en action. Donc chez nous, pas de dogme, pas de philosophie particulière, c'est l'amour en action. Pour nous, c'est mieux vaut ne rien faire que faire quelque chose sans amour. Donc mettre de l'amour dans ce qu'on fait, dans nos relations, dans nos rencontres, etc., qui nous amène à la bienveillance, l'empathie aussi, l'acceptation, la générosité. Donc voilà, l'amour en action.
Petite question piège. Le jour où vous avez décidé de vous réunir tous pour faire un travail collectif et puis qu'il y en a un, il n'a pas l'amour du travail collectif ce matin, comment on fait ?
Il ne fait pas.
Et tout le collectif accueille ça dans la mesure du possible, si ce n'est pas trop fréquent, on va dire.
Oui, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment cette problématique-là.
Non, ouais. Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées, vous ?
La principale, c'est la méconnaissance des personnes qui sont venues sur eux-mêmes. Voilà. Parce que c'est vrai que notre collectif fait beaucoup rêver, mais est-ce qu'on est prêt à vivre ce collectif ? Est-ce qu'on a assez travaillé sur soi pour être prêt à ne pas être le boulet pour le collectif ?
Voilà. Oui, quand même pas mal de gens qui se découvrent en vivant le collectif et ils ne se connaissaient pas. De toute façon, on se connaît que quand on vit des expériences. Et l'envie du collectif, elle est là. Et une fois qu'ils y sont, ils découvrent que c'est plus de contraintes que de plaisir. Et y a beaucoup de cas comme ça.
Alors qu'en réalité, ce travail qu'on décrit à vivre le collectif merveilleux dont on parlait. Quoi. Voilà. Et puis, engagez-vous au bonheur.
Vous avez parlé d'accueillir les émotions, de tout ce protocole, parce qu'effectivement, la relation déclenche souvent des émotions, vient raviver des blessures, etc. Vous avez parlé d'écologie intérieure. J'en profite pour dire qu'il va y avoir un stage d'écologie intérieure ici dans la région d'Alès en juin, les 16, 17 et 18 juin. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver les informations sur la page Facebook au service du vivant, l'information au service du vivant. On va donner aussi votre site internet pour avoir tout les activités qui se déroulent sur votre éco-village d'Ariège qui s'appelle Sainte-Camelle, donc Sainte comme une sainte, Camelle, C-A-M-E-2-L-E, et le site c'est sainte-camelle.fr. Quoi dire d'autre ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? C'est bon ? Il reste plus qu'à vous remercier. Un immense merci d'avoir fait la route depuis l'Ariège pour venir nous parler de tout ça. Puis nous, ici, à la boutique solidaire, on continue.
Merci à tous. Merci.
Merci.
Les colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.